Europe 1, Philippe Googler.
Pour l'instant, nous sommes loin de Tarbes, nous sommes en Auvergne. Très très belle région dont toute une partie a été classée au patrimoine mondial de l'humanité, la chaîne des volcans. C'est très beau. Jean-Bernard, comment on fait pour bien profiter de tout ça, pour ne pas se rater ?
Je voudrais d'abord vous poser une question, Philippe. Saviez-vous qu'il y a l'équivalent d'une tour Eiffel en Auvergne ?
Une tour Eiffel ?
Eh oui, non, c'est pas une plaisanterie. Le viaduc de Garabit, si vous voulez, dans le sud du Cantal, au-dessus des gorges de la Truyère. C'est un ouvrage d'art absolument magnifique, tout en métal, construit par Gustave Eiffel en 1879. Une vraie prouesse architecturale et un chef-d'œuvre. 564 mètres de long, 122 mètres de haut et une immense arche. Quand on voit ce viaduc, franchement, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était il y a 2 ans, je me demandais comment c'était possible de construire entre une vallée aussi encaissée, un ouvrage métallique comme ça. C'était un défi gigantesque, un chantier qui a duré 4 ans et qui a mobilisé 400 hommes. Les pièces de métal étaient usinées à Paris, elles étaient acheminées par un train et ensuite par un attelage. Quelque chose vraiment d'impressionnant. Alors je précise qu'on ne peut pas marcher sur ce viaduc parce qu'il supporte une ligne ferroviaire, la ligne Paris-Béziers, qui est toujours en activité. Mais on peut l'admirer de la route en contrebas, ou encore mieux, ce que j'ai fait, on loue une barque, un petit canoë, et on longe la vallée de la Truyère et on arrive face à cette arche magnifique, ce viaduc magnifique en métal. C'est quelque chose de très impressionnant. Alors le soir, je précise, il est complètement illuminé. On a franchement l'impression de voir un dragon de métal qui fait le grand écart entre les deux rives de la Truyère. Moi, j'adore ce côté de mélange entre l'aspect industriel, métallique, et ce côté nature brute et minérale. Je trouve que ça fait un contraste absolument saisissant. C'est un très bel ouvrage qu'il faut visiter quand on est dans le Cantal.
Vous savez ce que j'aime chez vous, Jean-Bernard ?
Oui, dites-moi.
On parle d'une région qui a un site naturel extraordinaire, composé de 80 volcans, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et le premier truc dont vous me parlez, c'est d'un pont.
Mais on va parler de paysages maintenant. Je sais que vous voulez que je parle des paysages.
Et du pont, on voit les paysages. C'est son côté lorrain.
C'est son côté lorrain. Les fourneaux, là.
C'est ça. Il faut du métal quelque part, quand même. Sinon, ça va pas.
C'est vulcain, en fait.
Il y a le côté vulcain, voilà. Alors, il y a quand même un paysage que je voudrais vous mentionner, parce que celui-là, il m'a arraché les tripes aussi. Et vous ne le connaissez pas, Philippe, j'en suis sûr. On l'appelle la Petite Mongolie. Vous savez où c'est, ça ?
Pas du tout.
C'est la région qu'on appelle le Cézallier. C'est à la frontière entre le Cantal et le Puy-de-Dôme. Oui. Même les Auvergnats la connaissent pas si bien que ça, cette région-là. Elle est complètement isolée. C'est un bout du monde, comme je les aime. Beaucoup moins touristique, évidemment, que cette fameuse chaîne des puits que vous adorez, mon cher Philippe.
Mais il dirait ça presque avec un air un petit peu...
Il devient insolent. Ça se dégrade, en fait.
Alors, pourquoi on l'appelle la Petite Mongolie ? Par analogie avec les immenses steppes mongoles, parce qu'il y a plein d'étendues herbeuses ondulées à plus de 1000 mètres d'altitude. On se croirait vraiment dans un autre pays, c'est le royaume des pâturages. On dirait un tapis de velours avec en toile de fond les crêtes du mont du Cantal. C'est vraiment très spectaculaire. Et en plus, c'est une région qui est très faiblement peuplée, Nathalie. Il n'y a personne, une poignée de villages.
Qu'est-ce que je vais y faire?
Vous irez au hameau qui s'appelle la Godivelle. 21 habitants. J'y étais il y a exactement un an.
On mange des godivots ?
Non, je vais vous dire ce qu'on y fait. Pas ce qu'on y mange. Il y a un tout petit restaurant, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on vient. 21 habitants seulement, complètement perdus au milieu de cette petite Mongolie, 1200 mètres d'altitude. J'en parle avec des trémolos dans la voix parce qu'il y a exactement un an, j'étais sur place. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, ce village, il est entre deux lacs. Il y a un lac au-dessus qu'on appelle le lac d'en haut et il y a un lac en dessous qu'on appelle le lac d'en bas.
C'est
logique. On peut faire une petite boucle, un espèce de 8 comme ça. Il y a 200 mètres de dénivelé, c'est très facile à faire. Mais au niveau géologique, c'est vraiment impressionnant.
Et je crois que c'est bien hiver comme été, ce que m'a dit un guide de moyenne montagne. Hein, vraiment.
Le Cézallier, c'est aussi prenant en été qu'en hiver.
Ouais,
c'est vraiment une région très impressionnante. Alors pour le découvrir, il y a un moyen assez ludique, si vous ne voulez pas faire de marche autour de ces deux lacs. Le Cézallier, cette immense étendue, cette immense steppe, on peut aussi emprunter un vélorail. Ça a été aménagé il y a quelques années.
Ah, je connais.
Voilà, le fameux vélorail qui fait 32 km de voie ferrée. Il y a plusieurs parcours au départ de la gare de Landerra.
Ouais.
D'ailleurs, cette gare de Landerra...
Il faut pédaler ferme, hein, c'est dur.
Alors, non, parce que depuis l'année dernière, ils ont mis en place un système de vélorail à assistance électrique.
Ça, c'est bien pour moi.
C'est pas bête parce que c'était dur.
Alors, la gare de Landerra, j'adore parce que c'était une ancienne gare de transhumance. Chaque année, il y a des dizaines de milliers de bovins qui transitaient. Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est les touristes qui viennent. Mais franchement, on traverse des paysages sublimes à simplement 5 ou 10 km heure à la force du mollet ou alors par assistance électrique. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer quand on est dans le Cézallier.
Alors, quand on parle de ces paysages perdus, de ces burons isolés, alors on a envie de vivre ça, mais on dort où pour être au plus près de ces territoires?
Vous venez de le dire, Philippe, on dort dans les burons.
Ah, c'est possible.
Eh bien oui, c'est ça qui est génial. Emmanuel a parlé des burons sur l'aspect récolte fromagère, etc. Il y a toujours les bergers d'estive qui y sont, mais il y a des burons qui ont été aménagés en gîtes, et certains même des gîtes de charme et de luxe.
Et vous connaissez le buron de Bannes.
Enfin, voilà, le fameux buron
de Bannes. Je sais tout.
1500 euros. Les deux nuits, c'est un buron de luxe.
1500
euros. On peut loger à 10 dedans. Hein. C'est un buron très chic.
C'est un endroit hors du monde. Hein. C'est extraordinaire.
Voilà, moi, je dors dans mon bureau, voyez-vous.
Mais deux heures de randonnée pour y aller.
Ouais, il se mérite celui-là. Mais c'est un des plus beaux du Cantal et d'Auvergne. C'est vraiment une expérience incroyable parce que vous avez une vue phénoménale tout autour. Hein. Alors, il faut prévoir un petit peu son ravitaillement. Ouais. À l'intérieur, tous les objets ont été chinés. On s'éclaire à la bougie. Il n'y a pas d'électricité. Il y a de l'eau de source. Il y a un poêle à bois pour se faire son feu. Enfin, si vous avez vraiment envie de faire une retraite hors du temps, c'est vraiment dans un bureau qu'il faut aller.
Je raconte juste une petite anecdote.
Dites-moi.
J'étais allé faire un reportage dans un bureau, un fabricant de fromage de Salers. Puis évidemment, on voulait manger le soir, puis il n'y avait rien à manger dans le secteur. Il faut aller loin pour trouver à manger.
Loin, ouais.
Et il dit, je vais vous faire une fondue. Bon, j'étais content, mais une petite fondue avec du Cantal. Je me dis, pourquoi pas, c'est pas réglementaire, mais allons-y. Et vous savez ce qu'il fait? Il prend une grande casserole d'eau chaude, il la fait bouillir et il jette le fromage dedans. C'était pour me faire plaisir. J'ai rien dit, on a mangé.
C'était une expérience au moins authentique.
C'était authentique. Voilà. Bon nom, mais authentique, oui. Est-ce qu'il y a une ville que vous aimez tout particulièrement?
On a parlé de Salers, justement, pas simplement pour le fromage, mais le village ou le bourg, c'est plus qu'un village.
Magnifique.
Le bourg de Salers, c'est absolument superbe. Ça fait partie des plus beaux villages de France. Emmanuel a parlé du côté récolte, etc. Mais pour l'architecture, ce village, ce bourg mérite vraiment la visite. On se croirait vraiment dans un télétransporté dans une autre époque. Il y a un château Renaissance, des tourelles, des maisons en pierre, des ruelles étroites. Et puis, il y a même des fêtes auvergnates en ce moment. Alors, j'espère qu'elles ont été maintenues à cause de la crise sanitaire. Mais autour de la place centrale, on peut vraiment assister à des danses folkloriques pendant tout l'été. C'est un rendez-vous incontournable quand on est du côté du Cantal.
On n'a pas parlé d'Aurillac.
Alors, Aurillac, figurez-vous, c'est la capitale française du parapluie. C'était une industrie florissante.
Ah, c'est pas Cherbourg ?
Non. Ça a marqué l'histoire de la ville au 19e et 20e siècle. Jusque dans les années 30, Aurillac produisait jusqu'à 1 million de parapluies par an. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus trop le cas. Mais il y a une entreprise sur place qui a subsisté, qui perpétue ce savoir-faire. C'est la maison Pigagnol.
Magnifique.
Voilà, classée entreprise du patrimoine vivant. Ouais. Ça fait 5 générations de père en fils qui perpétuent ce savoir-faire. Attention, ils ont pris le virage du très haut de gamme, du luxe. Ce sont des accessoires très fashion, très redesigné, très stylé.
Oh, fashion, très traditionnel quand
C'est entre 100 et 400 euros le parapluie.
Mais
quand
je me suis acheté un parapluie.
Voilà, c'est des accessoires de mode. Et je précise, pour la première fois de son existence, cette manufacture ouvre ses portes au public jusqu'à demain, 24 juillet, pour visiter les ateliers.
Merci beaucoup Jean-Bernard. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous partirons dans ce pays à l'histoire incroyable. C'est un pays qui a été découvert par Christophe Colomb en personne en 1492, qui est surnommé la perle de l'Atlantique et qui, depuis la révolution de Fidel Castro en 1959, vit un destin à part, un pays où la chaleur humaine est aussi intense que le sens de la débrouille. Nous irons à Cuba dans un petit instant sur Europe 1.
Et si on partait ?